Paul. Tout d'abord, un petit peu la genèse, votre parcours, enfin, quel était-il justement avant d'arriver à ce single qui est sorti à l'automne 2008?
Quelques mots, ça commence à la fin des années 80, par la découverte de la musique techno-industrielle, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire les premiers Fond de 4 de Skinny Puppy, ce genre de choses, Einstürzt Sunday, la musique industrielle des années 80. Ça commence là, en fait. Possibilité de faire de la musique avec des machines et pas plus avec des instruments.
Par rapport à l'album, il y a un aspect effectivement plus dance floor. On peut penser à Skipping Fetus of the Wheel, par certains aspects. On peut penser peut-être à White House. Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à ces différents éléments que je viens de cité ici, est-ce que vous sentez une parenté, une capillarité?
White House, je suis assez surpris de l'entendre, mais oui, pourquoi pas. Mais là, on parle vraiment justement de l'industriel dur, extrême, qui effectivement, c'est un peu de là que je viens, mais après, évidemment, il y a une évolution. L'idée, c'est de faire de la musique avec des machines, c'est ça la principale idée. Alors ensuite, dans la musique électronique, il y a 36 000 sous-genres, dont plusieurs m'intéressent, et c'est vrai qu'il y a une évolution. Au début, c'était vraiment purement industriel, chose très forte, très dure, très agressive, et puis progressivement il y a une évolution vers le dance floor, parce que c'est vrai que c'est une musique, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi. Donc là, avec Sinus, on est plutôt du côté dance floor, et même dance floor gentil, si je puis dire. L'influence industrielle est relativement légère, ou en tout cas elle est complètement dissimulée, je dirais, quelque part. C'est un disque qui cherche pas l'agression, qui cherche pas vraiment la violence, quoi. Mais c'est plusieurs voies que je poursuis en parallèle. Ça, c'est c'est le projet le plus accessible, le moins agressif, on va dire. Après, parallèlement, j'essaye aussi de faire des choses plus dures, plus industrielles, plus ambiantes, enfin. Voilà, il y a 3-4 directions que j'aime bien explorer parallèlement.
C'est ce mélange un petit peu à la fois tellurique, tectonique et puis mélodique, cosmique qui peut y avoir chez vous. Justement, qu'est-ce qu'il en est d'allier un petit peu ces aspects de manière assez concrète, hein, utilisation de basse, peut-être d'infrabasse. On parlera de votre collaboration avec l'un des membres des Young Gods, mais c'est vrai que quand on suit peut-être ce qu'a fait par exemple Franz Streichler pour Gilles Jobin dans un certain nombre de chorégraphies, ou ce que fait Clive Jenkins actuellement pour Cindy Van Acker notamment, on sent tout de même une parenté, déjà dans cette manière aussi de presque de déchirer l'espace.
C'est sûr, Clive Jenkins, c'est bien de le citer, c'est lui qui a masterisé l'album, et qui masterise généralement la plupart de mes productions. On vient tous du même endroit, en fait. Bon, les Young Gods, c'est une de mes influences majeures de base, c'est vraiment la chose qui m'a fait complètement changer de point de vue quand j'étais adolescent. Donc c'est clair que là, il y a un lien direct. Maintenant, déchirer l'espace, oui, alors l'idée, c'est, à l'époque, c'était ça s'appelait EBM, Electronic Body Music, c'était un terme un peu rigolo, on va dire, pour décrire une idée d'une musique qui serait à la fois pour le corps, donc des basses, un rythme tribal, pas tribal, mais un rythme répétitif qui permet de rentrer en transe, donc faire danser, et par-dessus ça, des mélodies, des sons étranges, des choses qui permettent de travailler dans la tête. Donc l'idée, c'était ça. C'était vraiment utiliser la musique au maximum. Pas seulement pour la danse, aussi pour son aspect intellectuel, on va dire. Et de réussir à faire les deux en même temps, pouvoir danser intelligent, on va dire. Ça reste toujours l'objectif en ce qui me concerne.
Danser intelligent, c'est aussi, si on se souvient des années 80, et justement lorsque Franz Streichler était disquaire chez Sounds aussi, donc effectivement, nous allions régulièrement nous fournir chez lui, et il avait trois maisons de disques fétiches. C'était Recommended Records à Zurich, Crammed Records je sais plus où, et puis il y avait aussi Rough Trade, parmi tant d'autres, j'entends bien évidemment. Qu'est-ce qu'il en est, vous, par rapport à cette galaxie, cet archipel de labels dont certains ont disparu, et le label Helvetic Underground que vous avez sorti?
Moi, je me suis aussi pas mal abreuvé à ces sources diverses à l'époque. Helvet Underground, maintenant, j'imagine que c'est affilié dans la mesure où c'est la musique que j'aime, donc elle est en droite ligne de ces labels-là. Maintenant, Helvet Underground, je le définis pas trop au niveau... je le redéfinis tous les 6 mois, je vais dire, au niveau des choix. Au final, au début, ça avait été créé comme un label de... Electro Dance Floor, donc relativement serré comme concept. Et puis progressivement, je me suis dit qu'il n'y avait strictement aucune raison de se réfréner. Et puis du coup, maintenant, la ligne éditoriale, c'est la musique que j'aime, peu importe quel est son style, on va dire. Mais bon, maintenant, voilà, moi j'ai mes choix, j'ai quelques styles qui sont de prédilection. Donc,
par exemple.
Alors on alterne entre électro, 80s, EBM, et des choses ambiant, expérimentales, electronica. Et en gros, on alterne entre les deux, ces deux pôles, avec tout ce qui peut se trouver entre les deux.
Ce qui est assez étrange à l'écoute de cet album et de vos sets aussi, c'est effectivement qu'on a au départ un aspect extrêmement lisse, n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il y a une espèce de douceur ouatée, et puis progressivement, il y a une intranquillité, une inquiétude, il y a des éléments anxiogènes qui sont amenés. Alors, je dis pas du tout que c'est une dramaturgie systématique chez vous, mais on a l'impression que, à l'image peut-être de certaines compositions de Franz Streichler pour Gilles Jobin, vous agissez par nappes successives. Comment est-ce que vous composez, justement? Comment est-ce que vous créez un climat? Je sais que c'est assez difficile de parler de cette facture.
Le prochain album sur lequel je suis en train de travailler devrait s'appeler Tension. Donc il y a effectivement cette volonté d'instiller une certaine tension, un certain inconfort dans la musique. Comment ça se fait maintenant pratiquement? C'est un peu difficile à dire, c'est-à-dire que moi ça se fait un peu contre mon gré en fait quelque part. Moi j'ai aucune formation musicale, donc je sais pas lire la musique, je sais pas vraiment composer de la musique, donc moi ça va vraiment à part tâtonnement. J'ouvre l'ordinateur, je prends un son, je le triture un peu, je regarde un peu ce qu'il raconte, et puis une fois que je suis content avec lui, effectivement je rajoute une couche. Ça se passe effectivement beaucoup comme ça, comme les graphistes travaillent beaucoup actuellement par calque empilés les uns sur les autres. De nouveau, l'idée c'est vraiment d'avoir une réaction physique à la musique. C'est une musique qui est créée pour écouter sur des grosses sonos dans des clubs ou dans des salles de concert, parce qu'effectivement, surtout au niveau des basses fréquences, il y a une réaction physique. Vous avez vraiment le ventre qui tremble, le corps qui reçoit une réaction directe avant même que le cerveau comprenne. Donc il y a vraiment cette idée de jouer sur ces deux aspects, quoi.
En parlant de Panasonic, il a notamment collaboré avec Cindy Van Acker pour un trio, Kernel, qui a été donné au théâtre du Grütli. Cindy Van Acker, comme d'autres, qui avait travaillé avec Denis Rollet. Est-ce que vous, cette tentation justement de... Enfin, peut-être avez-vous fait l'expérience avec un artiste plasticien, un chorégraphe, une chorégraphe
Ah, moi c'est une expérience qui m'intéresse beaucoup. Alors moi j'ai plutôt collaboré avec sur des films en fait, des musiques sur des films, ou avec des vidéastes, plasticiens, mais j'ai encore jamais eu la chance de pouvoir composer pour le théâtre ou pour la danse, et ça c'est une expérience que j'attends avec impatience.
Quand on entend la sonnerie de votre portable, on a l'impression qu'on revient vraiment au film de science-fiction des années 50. On pense à Ed Wood.
J'adore ça. C'est bien sûr Planète Interdite, qui est un peu aussi la référence ultime pour les musiques de films de science-fiction. Oui, j'adore ça. À l'époque, c'était bricolé avec des synthés qui venaient d'être créés. Et voilà, ils essayaient de sortir des sons. Ils ont profité de ce film pour faire une énorme banque de sons électroniques qui aujourd'hui encore sont utilisés dans plein de films. Le bricolage, c'est sûr que c'est de là que je viens. Aujourd'hui, je compose sur des ordinateurs, mais à l'époque, il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas d'ordinateur pour faire de la musique. Donc on devait composer avec des boîtes à rythme, des synthétiseurs. C'était souvent des grosses usines à gaz, compliquées à brancher, pas toujours fiables. Et on était vraiment là au niveau du bricolage. Les méthodes d'enregistrement étaient très compliquées. Et effectivement, c'est de là que je viens. Alors maintenant, c'est devenu beaucoup plus simple. Je fais moins de bricolage, je dirais, mais l'esprit est toujours là.
Vous avez donc, vous le dites, déjà mixé aux quatre coins de la planète. Et puis je lis qu'il y avait effectivement des expositions de vos morceaux sur quelques bandes vidéo. Zombie Artie de Bruce Labrousse, Quand j'étais chanteur, Sélection officielle à Cannes de Xavier Giannoli. Est-ce que vous pouvez parler justement de cette collaboration avec ces cinéastes?
Bon, en l'occurrence, Xavier Giannoli, quand je collaborais avec Water Lily, il avait entendu l'album, j'imagine, je ne me rappelle pas exactement. Il avait bien aimé, puis il voulait un morceau sur son film. Il l'a d'ailleurs refait, il l'a fait sur deux films, je crois. Et là, c'est vraiment, il n'y a pas de collaboration. Il entend la musique, il aime ça, et il demande s'il peut utiliser tel morceau sur son film, ce qu'on lui accepte avec grand plaisir, évidemment.
Le film abordait quel...
Alors, quand j'étais chanteur, c'était ce film avec Depardieu, qui était un ancien chanteur de charme, un peu vieillissant, comme ça, sur le retour. Assez beau film, même, très beau film. Et à un moment, il passe dans un club. Il y a une scène où il est dans un club, et la musique qui passe derrière, c'était ce morceau de Water Lily.
Et puis pour l'autre, donc peut-être plus underground, zombies, artistes.
Oui, alors ça c'est Bruce LaBruce, vieille vedette du cinéma gay underground américain. Bah là, pareil, il faisait un film sur les zombies et moi j'avais fait un remix pour un groupe genevois qui s'appelle The Living Dead Boys. J'avais fait un remix de leur morceau phare The Living Dead Boys justement. Et Bruce LaBruce l'a entendu et pareil, il l'a intégré dans son film et il a fini sur la compilation de la bande originale.
La collaboration que vous réalisez, c'est avec, enfin que vous allez réaliser puisque vous allez sortir un album avec lui, c'est, je crois, si j'ai bien compris, c'est Cesare Pizzi qui était le premier clavier des Young Gods, donc musique stratosphérique, atmosphérique. Enfin bon, on va pas quand même abuser des superlatifs. Mais qu'est-ce qui vous a attiré déjà chez lui? Évidemment, bon, il y a le sampling, il y a beaucoup de choses, mais elle s'est créée sur quoi cette complicité?
Bon, je pense qu'essentiellement, ça s'est créé sur un rapport humain, parce que c'est un être humain absolument adorable. Donc, à partir de là, je pense que tout le reste s'ensuit. Au niveau musical, ben voilà, il a créé les Young Gods, qui à l'époque ont vraiment défriché complètement le territoire du sampling. Ils ont été les premiers à vraiment montrer le potentiel du sampling. C'est ce qui, moi, m'a vraiment amené à la musique électronique à cette époque-là. Donc là, c'était tout à fait normal. Et puis, il s'avère que ça se passe très très bien. La collaboration musicale entre nous se passe très très bien, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là, c'est presque une évidence. Enfin, pour moi, c'est jouer avec une de mes influences majeures de quand j'étais gamin. Donc, pour moi, c'est juste le paradis.
Ah, si on prend juste le titre de votre album, deux dernières choses, Sinus, bon bah c'est une évidemment c'est une cavité, mais pourquoi ce titre?
Oh, parce que c'était à deux, parce que Sinus ça a deux acceptations, hein, c'est le sinus la courbe sinusoïdale qui est à la base de la plupart des sons en fait, un son c'est une courbe sinusoïdale, donc sinus pour moi ça inspire ça, puis sinus c'est effectivement les sinus du nez.
Alors, si on prend la composition d'ouverture sonique en quelques mots, comment vous la décririez?
Alors Sonic, ça a été fait en collaboration avec Mélina qui a trouvé quelques lignes mélodiques sur lesquelles je me suis calé, mais de nouveau c'est un morceau qui s'est créé tout seul, c'est-à-dire que moi j'arrive pas au studio avec une idée précise en me disant tiens je vais faire un morceau comme ça aujourd'hui. Généralement, j'en sais rien, je viens, je cherche. Je bidouille un peu et puis je regarde où ça me mène. C'est vraiment très très rare que j'arrive avec une idée préconçue sur ce que je veux faire. Et généralement, j'arrive toujours avec une vague idée, mais ce qui se passe, c'est que je tombe toujours à 1000 km. D'ailleurs, Sinus, c'est très intéressant pour ça. Ma tentative, c'était de faire un album qui ressemblerait à du Klaus Schulze, des morceaux de 20 minutes, super lents, ambiant complètement atmosphérique comme ça, et en fait j'ai fini avec ça qui n'a strictement rien à voir au final. Donc quand j'arrive avec une idée préconçue, généralement je tombe complètement ailleurs. Donc Sonic, je pense que j'avais rien spécialement en tête, puis là en plus comme c'est une collaboration, vraiment j'ai repris quelques sons que Mélina avait fait, j'ai ajouté des choses, je lui ai redonné, elle a refait 2-3 trucs, donc ça s'est passé comme ça sans arrière-pensée.
Donc vous aimez bien aussi travailler peut-être avec des instrumentistes, ou vous l'avez fait déjà?
Je l'ai fait, j'ai un projet parallèle, ça s'appelle Nous, avec un guitariste. C'est assez rare, en fait, à vrai dire, c'est assez rare. Je trouve que les instruments conventionnels posent beaucoup de problèmes pour quelqu'un qui est habitué à pouvoir créer très très rapidement, parce que c'est aussi un des avantages de la musique électronique, c'est qu'on peut arriver à un résultat final très rapidement, il y a peu d'étapes. En route, tout d'un coup, avec les instruments conventionnels, on retombe dans cette étape d'enregistrement, de sonorisation des instruments, toutes ces étapes que je trouve personnellement un peu lourdes. Alors c'est intéressant quand tout d'un coup l'instrumentiste a vraiment quelque chose de très, 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 très fort à dire, je dirais, mais sinon dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on peut arriver au même résultat avec que de l'électronique. Je suis toujours ouvert, hein, donc moi c'est avec grand plaisir, mais ça demande beaucoup de travail souvent, et voilà, j'ai un espèce d'objectif de productivité. J'aime bien voir le résultat assez rapidement, pas passer trop de temps sur un projet.
Donc ça, cet aspect, cette dimension, on terminera par deux choses là, mais cette dimension d'immédiateté, d'instantanéité, ça c'est aussi quelque chose qui est important et que vous permet les compositions que vous faites.
Pour moi, c'est important. Hein. Il y en a d'autres qui fonctionnent complètement différemment. Pour moi, c'est assez important. Je trouve que quand on travaille trop longtemps sur un morceau, on se fatigue, on finit par plus l'entendre, par plus l'aimer, par, enfin, on finit par se perdre un peu en route, donc j'aime bien que ça aille assez rapidement. Puis finalement, je suis le premier auditeur de ma musique, donc j'aime bien créer assez vite un morceau, le laisser dormir 2 jours, puis 2 jours après, je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc quand je l'écoute comme si c'était de la musique faite par quelqu'un d'autre, et j'adore cette sensation de... Parce que j'adore la musique, j'adore écouter un nouvel album d'un artiste que j'aime. Du coup, j'essaie d'obtenir le même résultat avec moi. Donc j'essaie d'oublier que j'ai fait ce morceau, puis de le réécouter, puis ça marche assez bien, je dois avoir une mauvaise mémoire. Et ça, c'est sûr que c'est plus facile avec l'électronique, parce que tout d'un coup, il n'y a pas l'aspect physique. C'est-à-dire que c'est pas que mes mains se rappellent de comment on doit jouer les accords du morceau. Ça tout été fait, ça se passe quand même très dans le cerveau. Donc, au final, le corps ne se rappelle pas du morceau. Donc, après 2-3 jours, moi, je l'ai oublié, je le réécoute comme ça, comme si c'était quelque chose de complètement neuf. Et oui, j'aime bien cette approche.
Alors, à l'écoute, on a quand même l'impression qu'il y a des motifs, même si, bon, et vous avez une composition, disons, assez particulière, n'étant pas, disons, vous-même musicien, mais en même temps, il y a des motifs, il y a des contrepoints, enfin... C'est comme ça que je les ai décodés. C'est certainement pas les bonnes grilles, si tant est qu'il y en ait. Mais effectivement, vous aimez revenir à des... Voilà, vous avez, par exemple, trouvé une grammaire musicale, une phrase comme ça, à un moment donné, et puis vous aimez la retrouver à d'autres moments où...
Non, je crois que c'est... Malheureusement, je crois que c'est pas vraiment un choix. Je crois que c'est plutôt une faiblesse. C'est plutôt un manque de ma part, plus qu'un vrai choix. Alors, effectivement, ça finit par donner une certaine cohérence. En même temps, moi, j'ai toujours peur que ça donne juste un aspect de répétition, qu'on ait l'impression qu'en fait, tous les morceaux sont un peu le même, ce qui n'est pas complètement faux, hein, en l'occurrence, dans Sinus. C'est vrai qu'ils ont tous été composés dans le même esprit, en suivant un peu la même, les mêmes schémas à chaque fois. Donc, il y a quelque chose comme ça, mais bon, j'essaye d'éviter d'être répétitif. Hein, on n'est pas censé... C'est difficile parce qu'en même temps, on parle de musique répétitive. Là, on parle de boucles souvent très très courtes qui se répètent les unes par-dessus les autres. Et tout le jeu étant d'essayer de faire quelque chose qui soit répétitif sans l'être. C'est assez difficile à dire. Donc, alors, il y a plein de gens qui ont expérimenté ça. Par exemple, dans des gens comme Luciano, ils sont assez forts à ce jeu-là de faire des boucles qui ont toutes des longueurs différentes. Ce qui fait que quand elles tournent, elles se rattrapent à des moments différents et ça crée des patterns qui sont. On peut perpétuer l'évolution sur l'ensemble du morceau, alors que la base, c'est des petites boucles relativement courtes. C'est clair que je vais un peu là-dedans. On peut, si on en est aux influences, on peut parler de Steve Reich et de ce genre de gens qui justement travaillent sur une phrase musicale et font 45 minutes avec juste ça.
Ou Terry Riley,
absolument. J'aime beaucoup ce genre de choses, quoi. Philip Glass aussi. Et c'est vrai que, voilà, ça fait partie des objectifs à obtenir. Tout en gardant ou en toujours en vue dans ce cas de figure que l'idée c'est qu'il faut que les gens dansent sur cette musique là donc il faut pas trop intellectualiser non plus, il faut réussir à garder le côté frais physique tout en essayant d'apporter ce petit plus.